La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Les conséquences de l'incarnation, quatrième conséquence. Alors sur quoi va porter la conséquence de l'incarnation? Cette fois-ci en épistémologie. Sur la manière dont l'intelligence peut connaître. Et je voudrais rendre une fois de plus hommage au théologien dominicain. Je vais m'appuyer sur l'article de l'autre père Nicolas, Jean-Hervé Nicolas, du couvent de Rangueil, lui aussi, qui a bien connu Maritain et qui écrit quelque chose, un magnifique article, sur le réalisme critique de Maritain dans la revue Thomiste qui rend hommage à Maritain en 1948. Alors, qu'entendre par réalisme critique? Vous savez que ce mot critique a soulevé une sorte de petite... Un petit différend, une petite discussion entre Étienne Gisson qui proposait plutôt le réalisme méthodique. Maritain tenait au mot critique, à l'adjectif critique, qui malgré tout, depuis Kant, critique de la raison pure, a une résonance, on va dire, idéaliste. Donc Gisson disait, mais non, si on fait, si on laisse une porte ouverte, si on fait un crédit à l'idéalisme, on est sur une pente savonneuse, c'est dangereux. Et ici, l'article défend l'adjectif critique et le défend au nom justement d'une plus grande incarnation. Le mystère de l'incarnation fait que l'intelligence de l'homme est configurée à l'image de celle de Dieu et qu'elle va pouvoir intégrer cette notion de critique dans un certain sens, lequel nous allons essayer de le dire. Alors, comment... comprendre le mot critique. La première chose, c'est que la philosophie, pour Maritain, c'est la recherche de la vérité. Donc, si on ne s'articule pas sur cette recherche de la vérité, bon ben, on n'est pas, on c'est pas la philosophie, on tourne en rond, on tourne, voilà. Donc ici, il y a une première citation à donner, c'est la théorie de la connaissance, elle se reçoit à partir d'une tradition, celle de la philosophie réaliste, et elle se reçoit à partir d'une révélation, donc cette articulation entre révélation, théologie et philosophie. Donc si tout se reçoit, on pourrait dire que ce qui se reçoit de manière ultime et première en même temps, l'alpha et l'oméga de la réception, c'est le réel. Si je reçois la tradition, si je reçois l'incarnation, c'est que je reçois le réel. C'est-à-dire connaître, c'est être l'autre en tant qu'autre. Le sujet connaissant devient l'objet connu. Et c'est ce qu'on appelle la connaissance par intentionnalité. Alors comment ça se fait? Donc on peut se demander l'être intentionnel selon lequel se fait l'identification du connaissant et du réel, ne sera-t-il pas lui aussi de l'être tout court? Ne rentrera-t-il pas dans le concept analogue d'être? Voilà des questions qu'on peut poser. Le père Nicolas y répond, cette objection repose sur un malentendu patent. Il n'est pas question en effet de considérer l'être intentionnel comme une sorte de moyen terme entre l'être et le néant. Il est de l'être lui aussi, et s'il est déclaré constituer un ordre à part, cela ne s'entend que sur le plan des êtres créés, où il ne peut jamais s'identifier avec l'être de nature, puisque toute créature est ontologiquement limitée et que le propre de l'être intentionnel est de lui faire déborder ses limites ontologiques. Donc voilà la première mise au point. Comment concevoir... l'attitude, on va dire, critique, eh bien, d'abord, par une opposition avec la phénoménologie. Pour rappel, c'est Brentano qui va remettre d'actualité l'aspect intentionnel. La connaissance intentionnelle va intéresser Husserl pour dire toute conscience est conscience de quelque chose. Mais vous le sentez, le point de départ n'est pas le même. Chez Brentano, la connaissance intentionnelle ne va pas sortir du sujet. Elle dépend d'un psychologisme qui ne fait pas assez droit à la réalité de l'objet. Et vous l'avez dans l'Annonciation, retour aux choses mêmes. Oui, c'est le mot d'ordre de Husserl, mais toute conscience est conscience de quelque chose. On est d'abord dans la conscience du sujet. L'époque husserlienne fait abstraction du monde, certes, pour retrouver un réel dans un deuxième temps, mais c'est ce geste-là qui fait que Maritain va garder l'adjectif critique en se démarquant de l'intentionnalité telle que Brentano et Husserl vont la concevoir. Alors, je vous donne ici le commentaire du père Nicolas. Jacques Maritain montre que la notion de pur objet est strictement impensable, parce que le premier objet de l'intelligence, celui auquel tous les autres se réduisent nécessairement, est l'être, c'est-à-dire ce qui existe ou peut exister hors de l'esprit. Citation, un objet premier, qui est l'être extramental, intelligible, sans lequel rien n'est intelligible, voilà l'irrécusable donnée de fait qui s'impose à l'intelligence au sein de la réflexion où elle prend conscience de son mouvement vers l'objet. De même, commente le père Nicolas, que l'objet fait face à un sujet connaissant, six objectifs, qui lui est corrélatif, de même, il implique une chose, ou en langage plus technique, un sujet trans-objectif, qui ne peut entrer dans la connaissance qu'en devenant objet. C'est là tout le sens valable et toute la vérité du mot fameux, un au-delà de la pensée est impensable, mais de la réalité duquel l'objet tire toute sa consistance. L'être de raison, c'est-à-dire un être qui n'est pas réel, un être de raison, c'est un être mathématique, dont la notion est en philosophie réaliste la plus voisine de celle du pur objet, ne peut être conçu que comme s'il était susceptible d'existence extramentale, de sorte que loin de constituer un point de contact entre le réalisme et l'idéalisme, l'être de raison manifeste lui aussi, à sa manière, l'impossibilité de concevoir un objet qui ne tirerait pas d'une réalité indépendante de l'esprit sa propre indépendance, en vertu de laquelle il est un objet posé devant, s'imposant, résistant à toutes les déformations que voudrait lui faire subir la faculté cognitive. On a donc ici une critique de l'idéalisme par les exigences mêmes de l'objectivité, dont aucune philosophie ne saurait faire fi, et moins que tout autre une philosophie idéaliste à qui il est essentiel de commencer par une critique de l'objet, est la partie la plus forte, la plus profonde et la plus originale de la critique de la connaissance de Jacques Maritain. La notion du pur objet est impensable, et pourtant, elle seule pourrait rendre l'idéalisme pensable, de sorte que, puisqu'un état de contradiction ne peut être réellement vécu, le plus sincère des philosophes idéalistes ne peut tenir réellement ses positions que par la réintégration subreptice du réalisme qu'il rejette. De fait, un va-et-vient de l'un à l'autre terme de la contradiction donne à l'esprit l'illusion de concevoir cette notion entièrement imaginaire, victime ici de sa naturelle propension à l'être. L'appréhension de l'être l'aide à feindre qu'il pense ce qu'il écarte, et cette appréhension est toute pensée. Donc ici, rejet de l'idéalisme en poussant la logique du réalisme dans son extrémité, dans sa radicalité, qui est que ce que l'on reçoit en premier, c'est l'être.
Thank you.
Vous avez remarqué que critique est un adjectif dans le réalisme critique, et que la différence avec Kant, c'est que c'est un substantif, la critique de la raison pure. Autrement dit, la critique dans l'idéalisme est proposée comme une matière à part, une sorte de science, une discipline première qui donne les possibilités de conditions de quelque chose, les possibilités de connaissances, qui permet de donner des limites de la raison, etc., etc. Et c'est une discipline. Ici, réalisme critique est un adjectif, c'est comme si le réalisme dans sa constitution même comportait déjà la notion de critique. En quel sens? C'est ce que nous allons essayer de voir. Donc la première chose à dire, c'est que tout réalisme qui pactise avec Descartes et Kant doit s'apercevoir un jour qu'il ment à son nom. Donc rejet de la posture idéaliste que l'on fait remonter à Descartes avant Kant. Donc ici, accord total de Gisson et de Maritain, faire de la critique une science à part, c'est s'embarquer dans l'idéalisme, en se privant de toute possibilité d'en sortir, parce que c'est considérer l'être intramental qui est l'objet de la critique comme autre que l'être extramental qui est l'objet de la métaphysique. Et par conséquent, on s'oblige à rejoindre ce dernier à partir du premier, ce qui est évidemment impossible, puisque par définition, une connaissance quelconque, fût-ce la critique, n'atteindra jamais que l'être intramental. Dès qu'on pose la critique comme faculté, on ne peut plus aller vers l'objet. Ainsi, faire de l'épistémologie considérée comme une science distincte le fondement de l'ontologie, c'est priver celle-ci de sa prérogative essentielle d'être la philosophie première, et c'est mettre dans l'ordre de nos objets de connaissance, avant l'être, un autre objet, auquel tous les autres par conséquent, et l'être lui-même, devraient se réduire, un objet qui ferait abstraction de l'être, puisque l'être objectif se tient devant, et transcenderait jusqu'au principe d'identité, ce qui est trop évidemment absurde. L'épistémologie ainsi comprise, conclut le père Nicolas, transcenderait l'idéalisme et le réalisme, ce qui ne saurait se concevoir, puisque ces deux attitudes d'esprit sont strictement contradictoires, l'une affirmant l'autre, niant la réalité extramentale de l'être. Ce débat ne saurait se trancher dans une science supérieure parce qu'il porte sur le suprême universel auquel sont intérieurs tous les intelligibles, n'étant lui-même contenu en aucun objet supérieur qui pourrait spécifier une science plus haute que la philosophie de l'être et judicative à son égard. Donc, la métaphysique doit imposer son réalisme, et si elle compte pour cela sur une autre science, qui serait la critique, qui ne relèverait pas d'elle, elle renonce par le fait même à être réaliste, et aussi en vérité à être tout simplement une métaphysique. Maritain conclut, la critique de la connaissance ou l'épistémologie n'existe pas en tant que discipline distincte de la métaphysique. Lui donner une existence à part, c'est poser un troisième terme entre le réalisme et l'idéalisme, entre le oui et le non, ce qui est toute la prétention des modernes, avec leur impensable notion de pur phénomène qui vide de l'être, le concept même de l'être, le plus général de tous nos concepts. Donc ici, retour au réalisme en tant que réalisme critique, c'est-à-dire un réalisme qui permet un retour sur lui-même suffisamment fort pour permettre un abord, une ouverture à l'objet, de se laisser aborder par l'objet de manière non naïve, ce sera le reproche que fera l'idéalisme à la posture réaliste, et donc c'est donner plus de force au réalisme que d'intégrer cet adjectif critique et de montrer que c'est dans sa constitution même. Comment ? Alors, le père Nicolas nous propose une démarche en montrant que c'est ici capital pour la philosophie thomiste. C'est dans l'analyse de l'opération cognitive de l'intelligence que Jacques Maritain a apporté à la pensée thomiste contemporaine une contribution d'une importance capitale. L'effort de Jacques Maritain se porte principalement dans le domaine de la théorie de la connaissance sur la détermination précise de la vraie nature du concept. Alors comment ? C'est que le concept est une pure transparence, parce qu'il a une fonction qu'il remplit, de mettre l'intelligence en contact avec la chose sans nullement s'interposer entre elles. Alors, la notion de signe formel va être empruntée à Jean de Saint-Thomas, mais ce n'est pas non plus revenir à la querelle du nominalisme, où on pourrait mettre un nom qui n'a plus de lien avec la chose. C'est justement un signe formel, mais qui ne déréalise pas la chose, qui permet justement de la porter du sens au concept, c'est-à-dire à la faculté cognitive de l'intelligence. La chose est abordée ici comme substance secrète, mystérieuse et sainte, qu'aucun traitement ne peut altérer. C'est donc ici ce que les scolastiques vont appeler le concept objectif. Vous avez cette théorie dans les degrés du savoir. La forme spirituelle que l'esprit produit en connaissant et qui, simple accident inhérent à l'intelligence selon son existence de nature, est selon l'être intentionnel la chose même, c'est ce que Maritain désigne par concept formel ou idée. C'est un simple moyen de connaissance pour l'être intentionnel. Elle n'est pas connue d'abord comme le terme auquel s'arrêterait l'acte de connaissance de la chose qu'il représente. Il est seulement connu avec la chose et secondairement par rapport à elle comme son support représentatif. Pour le connaître en lui-même, il faut que l'intelligence réfléchisse sur son propre acte de connaître et sur les intermédiaires dont elle a usé. Donc ici, le concept n'est pas séparable de la chose, donc en ce sens n'est pas un signe, au sens où je mets le mot fourchette de manière arbitraire sur l'objet fourchette, et on a la querelle des universaux. C'est un signe formel, c'est-à-dire qui s'attache à la forme de la chose et qui la présente, qui vient comme un plateau porter l'objet et qui permet à cet être intentionnel de connaître. C'est le passage du sens au concept. Donc cette fonction intentionnelle qui est représentative du concept, c'est parce que il s'agit non pas de faire, mais d'être l'autre en tant qu'autre. C'est toujours cet énoncé, le sujet connaissant devient l'objet connu. Donc ici, on a une grande différence entre produire un concept, c'est-à-dire faire, et utiliser le concept comme signe formel, ce qui se fait en même temps que l'acte cognitif, hein, que cet acte intentionnel qui permet la connaissance. Alors je voudrais donner une deuxième citation un peu complexe. Dans l'énonciation et dans le jugement, un objet est construit par nous avec un autre auquel nous déclarons qu'il est identique ou non identique dans la réalité. Cette déclaration, comme cette union ou cette séparation, sont proprement de nous à nous. C'est pourquoi, dans le jugement seul, il y a vérité ou erreur. Le verbe mental constitué par une énonciation fait donc à ce titre-là deux avec la chose. Mais il reste que chacun des concepts ainsi unis ou séparés ne fait qu'un avec la chose ou l'objet. Le verbe mental en question manifeste ce que je pense des choses rendu objet d'intellection en acte dans mes concepts du sujet et du prédicat. Nous sommes dans les degrés du savoir à la fin. Donc ici, on a l'affirmation de l'être extramental en même temps que l'affirmation du sujet connaissant dans l'acte de connaître. C'est un peu complexe, mais pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que dans cette finesse de Maritain, pour réfléchir sur le concept, il va y consacrer une annexe entière au degré du savoir. Il va revenir sur le concept à la fin de sa vie, dans Prochains entraves, dans le fascicule qui s'intitule Épistémologie existentielle. Et il va pousser le concept jusqu'à dire qu'il y a un concept d'existence. Alors là, ça fait bondir les thomistes, parce que concept d'existence, non, on a un jugement d'existence, mais pas un concept d'existence, c'est impossible. Il va le démontrer avec justement un retour de l'intuition sur elle-même. C'est par intuition, il va montrer qu'il y a trois retours possibles de l'intuition sur elle-même dans l'acte de connaissance, qui est un acte qui s'appuie sur l'acte d'existence, et ces trois retours de l'intuition sont finalement la perfection du geste critique de l'acte de connaître. Et pourquoi est-ce une conséquence de l'incarnation? Tout simplement parce que l'acte d'exister est placé au centre. On n'est plus dans l'essence et l'existence. On est dans une essence qui s'énonce, qui se dit, qui s'incarne dans l'acte d'exister. Et ça, c'est le geste de l'incarnation du Verbe. Et parce que l'intelligence reproduit d'une certaine manière ce grand mystère de l'incarnation et que le mystère de l'incarnation révèle quelque chose du mystère de l'intelligence humaine, Maritain va jusqu'au bout et fait exploser quelque chose qui est latent chez saint Thomas, mais il va le chercher, le traquer. Il progresse par approfondissement, comme il dit si justement, et non pas par découverte nouvelle. Non, non, c'est en scrutant le texte thomasien qu'il avance et qu'il peut dire qu'il y a un concept d'existence parce qu'il y a eu le geste de l'incarnation et qui nous sort de manière radicale de l'essentialisme. Et Maritain, dans ce texte Approche sans entrave, montrera que Aristote n'a pas pu franchir ce qu'il appelle le mur des essences. Il n'a pas pu parce qu'il était avant ce mystère de l'incarnation, qui oblige l'homme à penser sur son épistémologie, sur sa manière de connaître, d'une manière qui est complexe. Je suis d'accord, chers auditeurs, l'émission a été ardue, mais de temps en temps, il est intéressant de regarder comment certains, à qui il est réservé de monter au sommet de l'Everest, comment certains le font, même si nous avons du mal à suivre. En conclusion, le commentaire du père Nicolas. L'œuvre de Jacques Maritain en critique est d'une immense importance. Il a eu le courage de proclamer avec une vigueur inégalée que l'idéalisme, quel que soit son prestige et si grand que soit dans l'histoire de la pensée ses champions, était une doctrine de mort et une erreur philosophique manifeste. Sa grande voix a fini par se faire entendre et a rendu confiance à un nombre considérable d'esprits, on est en 48, qui eussent sans doute été incapables par eux-mêmes de résister à la pression toute-puissante de l'idéalisme, mais qui ont éprouvé un soulagement immense à apprendre qu'on pouvait être réaliste sans renoncer à l'intelligence ni à la philosophie, c'est-à-dire à une naïveté. On a traité les réalistes de naïfs. Que c'était même le seul moyen de n'être pas conduit à y renoncer. Donc ici, apologie de Maritain, qui mérite d'être souligné parce qu'on est plus de 50 ans après, et qu'au contraire, Maritain est considéré comme quelqu'un qui n'est pas thomiste, qui serait déviant, qui serait original, qui se servirait de saint Thomas pour faire sa propre philosophie. Et je pense qu'il y a quelque chose à repenser de manière plus équilibrée. Voilà la quatrième conséquence du mystère d'incarnation, aller jusqu'au bout du concept.